Bonjour, bonjour, bonjour. Bon mercredi 1er juin 2022 à tous. Bien heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Bonjour à Tushin Maria Neiva. Bonjour à Marie Huguette. Bonjour à Farley. Bonjour à Marie André. Bonjour à Manon. Bonjour à Yaoi. Ah, Jo-san, je savais pas Yaoi. C'est vrai que j'ai pas pris de cours de cantonais. Dieu te bénisse. Bonjour à Pascal. Bonjour à Sylvia. Bonjour à Immacula. Bonjour à Marthe. Bonjour à Claude. Soyez prudente sur la route, Pascal. Bonjour à Marguerite. Waouh, vous connectez tous rapidement ce matin. C'est fini, Néné. C'est fini. C'est fini. OK? Bonjour à mon père, à ma mère. Marie-Huguette, merci. Donc, journée ennuagée ou nuageuse. Et puis un peu fraîche avec de la pluie cette nuit. Rosie, bonjour. J'ai pas vérifié si le son était bien, mais j'espère que oui. Je pourrais peut-être aller faire une petite vérification de routine, mais attendons voir. Voilà. Voilà. Ouais. On m'entend bien. On frotte un peu, ça marche. D'accord. Donc le son est bon. Vous avez deux rendez-vous aujourd'hui. Vous avez donc votre actuel et présent rendez-vous pour la bénédiction matinale. Et bien sûr, on a aussi en présentiel ce soir notre étude biblique. Alors là, tout le monde va me demander, pasteur, est-ce que c'est juste en présentiel? Non, ce n'est pas juste en présentiel, mais j'espérerais que ce serait. J'aimerais que ce soit juste en présentiel. Parce que là, ça nous permettrait de voir peut-être plus de visages. Même si ce soir, je risque de ne pas pouvoir être là. Daphné a un rendez-vous médical en fin de journée. Et en général, ça prend tout le temps pas mal de temps. Donc, pas sûr d'être là ce soir, mais c'est en présentiel. Il y a toute l'équipe qui sera là pour vous accueillir, vous recevoir et partager avec vous ce beau moment. Bonjour Marie-André, encore une fois. Bonjour à Nancy, bonjour à Rachel, aux sœurs qui se connectent avec toi, donc Ocilia, Chantal, Mona, que Dieu vous bénisse. Bonjour Julie, bonjour à votre époux, bonjour à ma mère. On continue notre étude du verset 3 dans Jérémie 33. Probablement le verset le plus connu du livre de Jérémie. Good morning, Pastor David. How are you? Have you seen the pictures I've posted on my backyard? I built myself a nice little propane fire pit, and I put some pictures. Only problem, no snow. Second problem, too many mosquitoes. But I'll have it ready for winter. Bonjour Denise. C'est Denise de Laval. Je n'en doute pas, Rosie, ça doit être agréable de méditer à même notre jardin. Bonjour Bernadette. Bonjour à tous ceux qui se connectent aussi via la page internet, la page internet de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Votre nom n'apparaît pas, mais on sait que vous êtes plusieurs à le faire. Soyez bénis. Bonjour Guy. Yeah, due time. Yeah, of course, due time. I like that. I would love for due time to be all year long, but I'll wait. I guess the worst thing during summer are the mosquitoes. No more wasps because I killed them all. Well, the technician did it. So my problem with wasps is over now. Bonjour Nathalie. J'espère que ça va bien. Bonjour Myriam, bonjour Donald. Do I have any choice? Than waiting. Even if I wanted the snow to come back earlier, I couldn't do nothing about it. Encore une minute et on va commencer. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi. Samedi, je pense que j'ai oublié de vous remercier. J'avais deux funérailles auxquelles je devais participer et qui étaient à presque 2 heures de distance par la route. Donc, j'ai été tout d'abord pour les obsèques du frère Raymond Boissé. On faisait ça à Sutton sur le terrain familial. Ça a été un beau moment où on a pu voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, rencontrer d'autres. Et à peine ma participation était-elle finie que je prenais la route pour retourner à Montréal pour les obsèques de Daniel, le fils de notre chère sœur Livie. Donc merci de m'avoir couvert par vos prières. Tout s'est bien passé, le Seigneur a ouvert la route. J'ai fait ça dans un temps record. Donc, on rend grâce au Seigneur que... Et puis, bon, les gens m'ont dit avoir été bénis d'un côté comme de l'autre. Donc, merci pour toutes vos prières. Babette, Andreas, bonjour. Alors, on va prier et on commence. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons d'étudier ta parole et de recevoir ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. Nous savons Seigneur que tu nous aimes, que tu prends soin de nous et qu'encore aujourd'hui tu as la nourriture, le breuvage qui nous est nécessaire. Donc nous ouvrons notre cœur, nous disposons de notre âme, de notre esprit pour que ta parole puisse trouver un terrain qui lui est propice, afin qu'elle puisse s'enraciner en nous, croître, et qu'elle puisse même venir apporter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. En toute chose, Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de continuer à nous visiter et de continuer à nous bénir. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue en ce mercredi 1er juin pour notre bénédiction matinale d'aujourd'hui. Je vais lire pour vous le passage qu'on médite depuis maintenant 2 semaines et demie. C'est notre dernière semaine sur ce passage. Dans Jérémie, au chapitre 33, des versets 1 à 3. La première semaine, on a étudié le premier verset, le deuxième verset, la deuxième semaine. Et en cette troisième et dernière semaine, on étudie probablement le verset le plus célèbre de tous les écrits de Jérémie, donc le verset 3. Je lis pour vous une fois le texte au complet, puis je répéterai une ou deux fois encore le verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je répète le verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et une troisième fois et dernière fois tous ensemble. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors que Dieu bénisse sa parole. Hier, on a commencé donc notre étude sur ce verset 3 et je vous expliquais que bien que Dieu s'adresse dans ce passage à un prophète, donc à quelqu'un qui est un porte-voix pour lui, un instrument qui partage les oracles de Dieu, ce verset, on a tendance à l'appliquer à la thématique de la prophétie. Mais quand on étudie plus précisément, plus profondément ce texte, on se rend compte que Dieu ne parle pas du tout de la prophétie. Dieu ne parle pas du tout de comment la prophétie se passe quelles sont les règles qui la régissent. Ici, en fait, Dieu parle d'une fonction qu'il occupe pour nous et de façon illustrée pour Jérémie à titre d'avocat céleste. Hier, on a étudié le terme « invoqué ». Et le terme « invoqué », j'expliquais que c'est un terme qui est juridique, qui est légal. C'est le fait de se placer sous la tutelle d'une loi ou sous la protection d'un article de loi, voire d'un code civil, pour être protégé de toute poursuite ou de toute attaque. Et ici, pourquoi ce texte est-il un texte légal? Ben parce que Jérémie a été arrêté, a été mis en prison et attend le jour où il comparaîtra devant le roi, voire devant les instances juridiques de l'époque, pour être jugé. Et comme je l'expliquais, très souvent ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on t'arrêtait, puis on t'enfermait, et on t'oubliait dans le cachot ou dans la prison où on t'avait incarcéré, jusqu'au jour où peut-être éventuellement on venait à te faire sortir parce que le roi s'en rappelait, parce que le roi décidait de faire une œuvre gracieuse, ou parce que tout simplement l'ennemi venait libérer les prisonniers. On était enfermé dans l'attente d'un procès qui pouvait ou qui pouvait ne pas avoir lieu. Et Jérémie est donc dans cette attente. On l'accuse d'avoir faussé des prophéties. On l'accuse d'avoir parlé faussement au nom de Dieu, notamment en annonçant la destruction du pays, en annonçant la chute du roi Sédécias, et ce dernier frustré des prophéties de Jérémie va décider de l'enfermer pour le faire taire. Jérémie est incertain par rapport à son avenir, incertain par rapport à sa libération éventuelle, et probablement inquiet, puisqu'il se dit « j'ai fait le travail pour Dieu, j'ai fait ce que Dieu me demandait, c'est pas moi qui suis allé chercher la prophétie, ce n'est pas moi qui suis allé chercher ce rôle, et pourtant je me retrouve dans une posture tout à fait injuste, Et se pourrait-il que j'aie été oublié? Oublié par mes concitoyens, oublié par ceux qui croyaient en mes prophéties jusqu'à présent, et oublié même par celui qui m'a mandaté pour faire cette prophétie, Dieu lui-même. Et Dieu se présente et il lui explique dans les versets 1 et versets 2 qu'il est toujours là, en train de parler, qu'il est toujours là, en train d'agir et en train de se présenter auprès de ses enfants, et particulièrement dans ce cas-ci, auprès de Jérémie, en lui disant, ne t'inquiète pas, c'est moi qui fais ces choses. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui continue à t'utiliser. Ne t'inquiète pas, même si tu penses que l'œuvre à laquelle tu as été appelé est maintenant mal en point, c'est moi qui continue à faire ce que j'ai à faire à travers toi, pour toi, et par l'entremise du ministère et des dons que je t'ai accordés. Alors il lui dit, invoque-moi, appelle à moi ou fais appel à moi. Et on se disait que très souvent, lorsqu'on est dans des moments difficiles, le premier réflexe qu'on a, ce n'est pas nécessairement de chercher Dieu lorsque le problème se présente, mais c'est d'essayer de régler la chose par soi-même. Il y a certaines personnes qui vont s'évertuer pendant des mois, pendant des années à essayer de régler une problématique, jusqu'à ce qu'ils soient maintenant rendus à un moment sans ressources, ayant épuisé toutes celles qu'ils avaient, et finissent par se tourner vers Dieu. Lorsque le Seigneur dit à Jérémie, appelle-moi, il est en train de lui dire, fais appel à moi comme un avocat. Fais appel à moi comme on fait appel à un juriste, pour nous aider dans notre démarche, pour nous aider devant la cour. Et le Seigneur va dire, invoque-moi et je te répondrai. Le terme répondre, c'est le terme Anna, A-N-A, comme le prénom Anne. En espagnol notamment. Donc Anna, qui veut dire répondre, qui veut dire témoigner, qui veut dire parler distinctement, qui veut dire répondre comme un témoin répond à la cour ou au président de la cour. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu est en train de dire, Jérémie, ne dépends pas sur tes forces, appelle-moi, fais appel à moi. Invoque-moi pour ta cause et je te répondrai. La grande nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est que Dieu répond toujours présent lorsque nous l'interpellons. Lorsque nous demandons au Seigneur d'intervenir, lorsque nous confions notre cas, parce que c'est ça à quoi Jérémie est invité dans ce passage. Lorsqu'on demande à un avocat de venir, c'est pour qu'il nous représente devant la cour, c'est pour qu'il nous couvre de ses conseils, de sa sagesse et de sa connaissance des procédures légales. Et on a déjà vu des films, des histoires, peut-être des cas vécus malheureusement, de gens qui vont se présenter à la cour, d'un accusé qui va se présenter à la cour, et pour X raisons, son avocat ne se présente pas, son avocat n'est pas là. Une erreur, un oubli, un empêchement, ou quelqu'un qui l'a bloqué dans son parcours jusqu'à l'accusé. Dans notre cas, nous devons avoir l'assurance d'une chose. Lorsque nous invoquons Dieu, il est présent. Toujours dans cette même dynamique de la thématique de l'année 2022 pour nous en tant qu'Église, Jésus est vraiment, vraiment, vraiment ici. Mais Jésus est vraiment ici, pas pour simplement assister à ce qui se passe, pas simplement pour voir ce qui se passe. Si Jésus est à nos côtés, c'est pour agir. Dans le verset 1, on disait que Jésus parle toujours, que Dieu parle toujours. Dans le verset 2, la grande pensée qui sortait du verset 2, c'est qu'il agissait encore aujourd'hui. Alors notre avocat, lorsque nous faisons de Jésus effectivement l'avocat de notre vie, répond toujours présent. Il n'est pas celui qui va nous faire faux bond, il n'est pas celui qui va nous poser un lapin au moment important, il va dire non, débrouille-toi tout seul, ou il va simplement être là en train de regarder. Non, il va répondre. Il va répondre et témoigner comme un avocat ou comme un témoin se doit de témoigner. Ici, on est en train de parler de Jésus qui se présente comme l'avocat de la défense pour Jérémie, Jésus qui se présente comme avocat de la défense pour toi, pour moi, et lorsqu'il agit, il répond. Ça veut dire qu'il va parler, qu'il va intervenir. Et notre Dieu ne peut pas contourner la vérité. Notre Dieu ne va pas amoindrir les faits. Il va arriver avec son plaidoyer, avec sa plaidoirie, bien montée, bien établie, bien pensée, et il va faire son travail. Combien on peut être rassuré qu'au moment où on nous accuse, qu'au moment où on nous persécute, qu'au moment où on nous traite de bien des choses, notre Dieu sera toujours présent à nos côtés. Voilà pourquoi David avait aussi ce calme lorsqu'il passait par la vallée de l'ombre de la mort, en disant « parce que tu es avec moi, je ne crains rien, ta houlette et ton bâton vont me rassurer. Si on essaie de m'attaquer, tu vas être là pour me protéger. Si je suis en train de m'écarter, tu vas être là pour me ramener dans le droit chemin. » Donc David n'avait pas peur parce que Christ, parce que Dieu était à ses côtés. Nous de même, lorsque nous passons par les moments difficiles, nous devons nous rassurer que Jésus est vraiment là. Lorsqu'on nous affuble de tous les pires qualificatifs, des pires accusations qui puissent être, lorsqu'on fomente même de fausses accusations à notre égard, nous savons que Dieu est là pour nous rendre justice. Alors nous pouvons dire à notre âme, nous pouvons dire à notre esprit de retourner à leur repos parce que nous savons qui campe à nos côtés. Lorsqu'on a le meilleur avocat qui soit, lorsqu'on a celui qui gagne toutes ses causes, nous devons être rassurés qu'il ne fera pas exception à la règle avec notre cas. Que lorsqu'il aura à se lever, à parler, à intervenir et à agir, ses propos seront indiscutables, ses propos seront irréfutables, ses propos seront pleinement justes, pleinement véridiques et apporteront le salut, la grâce et la délivrance pour celui envers qui Christ témoigne. Donc, il répond. Notre Dieu, première pensée ce matin, notre Dieu répond toujours présent. Que tu l'entendes ou que tu ne l'entendes pas, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu saches ce qu'il est en train de préparer ou que tu ne le saches pas. Un accusé n'est pas toujours mis au courant de ce que son avocat va faire. Parfois, l'avocat va l'épargner de certains détails du dossier en lui disant « Regarde, ça, ça va t'inquiéter pour rien » ou va lui dire simplement « Ça, c'est pas important. Concentre-toi sur autre chose. Laisse-moi ça entre les mains. Je prépare quelque chose. » Ou sinon, même l'avocat va préparer une surprise pour le jour du tribunal, pour le jour de la cour, le jour du procès. Il va préparer quelque chose et à la dernière minute, il va le sortir au même titre où l'accusateur fait de même. Mais l'avocat de la défense, je vous rappellerai qu'en cour, il a toujours la dernière parole, le dernier à s'exprimer devant la cour et devant le jury, le dernier qui peut invoquer une grâce ou interpeller ou inviter à une grâce, ça reste toujours l'avocat de la défense. Alors le dernier mot appartient à notre Seigneur. Il dit « Je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai des choses cachées, je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. » Je t'annoncerai, le terme nagad, annoncé, N-A-G-A-D, pour ceux qui prennent des noms, qui prennent des notes. Nagad, annoncé, qui veut dire faire savoir, rendre visible, déclarer, faire connaître une chose, rapporter une chose, informer ou exposer une chose. Dans le premier verbe qu'on a vu ce matin, c'était répondre, de se présenter comme un témoin. Dieu va dire à Jérémie, je vais faire quelques manœuvres, quelques travaux qui sont bien spécifiques. Un, je vais me présenter. Deux, je vais annoncer de grandes choses. 3, je vais annoncer des choses cachées. 4, je vais annoncer des choses que personne ne connaît. Je vais annoncer de grandes choses. Annoncer, ici, c'est que Dieu va amener à la lumière son argumentaire, va amener à la lumière des faits, va amener à la lumière des clauses de la cour, de la jurisprudence, des choses qui disculpent l'accusé. En fait, ce que nous apprenons avec « je vais t'annoncer », c'est qu'il nous annonce des choses qui sont irréfutables. Il nous annonce des vérités que personne ne pourra contredire. Notre Dieu est celui qui est la vérité. Alors, ce qui sort de sa bouche est une vérité qui est irréfutable, qui ne peut pas être réfutée, qui ne peut pas être réprouvée. Une vérité qu'on ne peut pas contester. Ça veut donc dire que lorsque le Seigneur va venir pour te protéger, lorsque le Seigneur va venir pour témoigner à ton égard, il va amener des arguments que l'ennemi ne pourra pas contredire. Il pourra essayer, il pourra faire comme il a fait avec Job, lorsque l'Éternel voit le diable venir et il dit à propos de Job, « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un qui est plus intègre que lui sur terre. Il ne se trouve pas un seul homme comme lui sur terre. » Et le diable va dire, « Ouais, mais ça c'est parce que tu l'as béni, ça c'est parce que tu as fait ceci, que tu as fait cela, et ça c'est parce qu'il n'a pas été touché dans ceci, dans ce domaine, dans l'autre domaine. » Et Dieu va lui permettre au diable d'intervenir, de pousser ses accusations, d'essayer de faire tomber Job, mais Dieu sait que Job ne tombera pas. Et Dieu amène cet argument comme quoi il est un homme intègre. Et Dieu va limiter l'action du diable, va limiter la possibilité de tenter de la part du diable à des limites que Job est capable de supporter. Effectivement, nous ne sommes pas tous comme Job. Et il est un super-héros de la foi, il est un homme intègre, bien plus fort que bon nombre d'entre nous. Mais Dieu permet qu'on passe dans des choses, qu'on soit accusé par des choses, et malgré tout, il donne le témoignage véridique à notre égard. Lorsque Dieu disait que Job était intègre, ce n'était pas un vœu pieux, ce n'était pas « j'espère que Job est intègre », il disait « je sais que Job est intègre ». Lorsque le diable va dire « ouais, mais si tu enlèves telle chose », il va chuter. Dieu disait, non, c'est un homme intègre. Tu peux essayer, tu vas voir. Tu vas te casser les dents avec ta tentative. Parce que je sais que Job, même, parce que je sais que Job est intègre. Et tout au long de son processus, tout au long de la tentation, Job est resté sous l'appellation d'être un homme intègre et est resté fidèle à ce que Dieu savait de Job. Dieu avait la sagesse irréfutable dans le fait qu'il connaît hier, aujourd'hui et éternellement. Il sait comment une chose va se terminer avant même qu'elle ne commence. Donc lorsque Dieu proclame à ton sujet que tu es vainqueur, c'est parce qu'il sait que tu vas vaincre. Lorsque Dieu proclame que tu es vainqueur, c'est qu'il sait que tu as tout le potentiel nécessaire pour être vainqueur. Mon frère, ma sœur, très souvent le diable va t'accuser. L'important n'est pas le mensonge du diable, puisqu'on la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Donc l'important n'est pas ce que le diable dit à ton sujet, mais ce que Dieu dit à ton sujet. Alors, la question pour toi et pour moi, est-ce que je vis une vie qui est telle que Dieu peut faire les éloges de qui je suis? Est-ce que je vis une vie qui honore Dieu? Ou est-ce que le diable peut avoir raison lorsqu'il dit « ce gars-là, c'est un faux » ou « cette femme-là, elle est fausse, elle est hypocrite, elle n'est pas réellement qui elle prétend être » Est-ce que Dieu peut vraiment honorer le serviteur que tu es en déclarant des choses irréfutables à ton sujet? Job a permis à Dieu de dire « c'est un homme intègre ». David a permis à Dieu de dire, c'est un homme selon le cœur de l'Éternel. Et je vous rappellerai que David n'a pas été infaillible. David a péché. On sait comment il a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. On sait comment il a commis l'adultère et comment il a pris même par violence et par subterfuge, comment il a pris Bathsheba pour épouse. On sait comment David n'a pas été toujours glorieux dans son approche. Mais la Bible nous dit qu'il était un homme selon le cœur de l'Éternel. Qu'est-ce que David avait? David avait cette sincérité devant Dieu. Jamais on ne voit David faire semblant. Jamais on ne voit David se présenter sous de faux semblants, sous de fausses apparences, sous de faux attributs. Lorsqu'il a péché et qu'il a été confronté avec son péché, la Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement, qu'il s'est repenti. Lorsqu'il a été confronté avec ses fautes, David n'avait pas peur d'admettre ses fautes et d'admettre ses faux pas et d'admettre son péché. Et lorsque David était faible, il n'avait pas peur d'admettre devant Dieu que les forces l'abandonnaient. Il ne faisait pas semblant d'être un super-héros s'il n'en sentait pas la capacité en lui. Et c'est là où on rejoint un peu la thématique d'hier, où le terme « kara » nous rappelait de crier à Dieu comme le cri d'une bête, comme un animal qui est terrorisé, un animal qui est en douleur. Il va émettre un son tout particulier qui n'est pas son son habituel, qui n'est pas le bruit habituel de cet animal, mais peu importe qui l'entend, on sait qu'il est terrorisé ou qu'il est blessé et qu'il est en douleur. Et c'est cette manière-là avec laquelle on doit s'approcher à Dieu, en toute honnêteté. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas s'approcher de lui en disant « Oui Seigneur, je suis clean, je suis propre, je suis honnête, je suis intègre » et mener une double vie, le Seigneur le sait. On ne peut même pas penser autre chose que ce qui sort de notre bouche. David va dire à un moment donné, si je ne m'abuse et je dis ça de façon aléatoire, je pense que c'est dans le psaume 13. Si tu sondes mon cœur, mes paroles ne sont autres que mes pensées, ou mes pensées ne sont autres que ce que ma bouche proclame. Alors David était en train de dire, ce qui est à l'intérieur de moi, c'est la même chose que je présente à l'extérieur. Je n'ai pas un double standard. Et par rapport à ça, donc Dieu qui juge toute chose, qui juge toute motivation, qui est capable de sonder au plus profond de l'être humain, était capable d'arriver avec une plaidoirie irréfutable. Notre Dieu ne pourra pas être contesté quand il se lève à ton égard. Malgré les mensonges qu'on peut nourrir à ton égard, malgré les fausses accusations desquelles tu peux être affecté actuellement, malgré tous ces mensonges qu'on peut lancer à ton égard aujourd'hui ou par le passé, sache que lorsque Dieu se lève, ce qu'il proclame à ton égard est irréfutable. Voilà pourquoi la Bible nous le présente comme l'avocat pour notre âme, l'avocat pour notre vie. Je disais ou je rappelais dimanche, lorsque le diable te rappelle ton passé, je dis bien ton passé, rappelle-lui son futur. Toi, ton passé, il est passé. Il peut te dire que tu as été le pire des mécréants, le pire des pécheurs, le pire des ignobles personnages que l'histoire ait connu. Mais lorsque tu es venu à Christ, tu as été sanctifié, tu as été purifié, tu as été renouvelé en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, et ces accusations passées ne tiennent plus. Le diable aime les ramener à la surface. Le diable aime les ramener dans ta pensée pour te faire croire que tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Et il a bien raison, tu ne la mérites pas, mais tu en as bénéficié et tu as le droit d'en bénéficier. Nous ne mériterons jamais la grâce de Dieu. Notre péché d'hier, Dieu a décidé de le pardonner à travers la mort et la résurrection de Christ lorsque nous venons repentants devant lui. Et il oublie ce péché, il oublie cette iniquité qu'il lance même dans ce qu'on appelle la mer de l'oubli. Toutefois, pour le diable, nous savons, toi et moi, la parole nous le dit, où il va terminer pour l'éternité, dans la géhenne, dans le feu de l'enfer, pour l'éternité. Alors lorsque le diable vient avec ses accusations concernant ton passé, qui a été sanctifié et purifié par Christ Jésus mort et ressuscité, rappelle au diable son avenir, qui lui ne peut pas être sanctifié, purifié et racheté. Alors mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu es sous les coups de l'ennemi, si aujourd'hui tu es sous les accusations de l'ennemi, rappelle-toi que l'avocat auquel tu as fait appel, l'avocat que tu as invoqué pour qu'il prenne ton cas entre ses mains et qu'il agisse pour toi auprès de la cour, cet avocat répond toujours présent. Il ne te faussera pas, il ne te fera pas faux bond, il ne t'abandonnera pas, il ne te rejettera pas. Et lorsqu'il va se mettre à parler, il va dire des choses d'une sagesse irréfutable que l'ennemi ne pourra pas contredire, que tes ennemis ne pourront pas contredire, parce que ça a été quelque chose qui a été proclamé à travers le sang, à travers la mort et à travers la résurrection de Christ. Alors rendons grâce à Dieu pour cet avocat qu'il est pour nous. Merci Seigneur, parce que même dans nos situations difficiles, lorsque nous sommes malmenés par l'ennemi ou par des gens autour de nous, lorsqu'on nous lance toute une multitude de fausses accusations, nous pouvons nous tourner vers toi en sachant que tu nous fais justice, que tu seras là à nos côtés tout au long de notre procès ou du procès qu'on intente contre nous. Nous savons que tu ne nous abandonneras pas, nous savons que tu ne nous délaisseras pas, mais que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Mieux encore, Seigneur, l'argumentaire que tu vas soulever à notre égard, la plaidoirie que tu vas faire à notre égard, elle émane d'une sagesse irréfutable. La stratégie de plaidoirie, la stratégie que tu vas utiliser à notre égard, elle est parfaite, complètement parfaite, parce que tu es incontesté et incontestable dans ta sagesse. Alors merci Seigneur d'être à notre défense. Merci d'être à nos côtés. Aujourd'hui, je prie Seigneur que tu fasses sentir ta présence auprès de ma sœur et de mon frère pour qu'ils puissent effectivement reconnaître que le roi des rois est là à leur côté, campe à leur côté et agit comme avocat pour leur âme, leur esprit, leur vie. Nous t'avons prié dans ce précieux nom qui est le tien, le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Et nous disons tous Amen. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. On vous rappelle ce soir, vous avez rendez-vous pour l'étude biblique. C'est en présentiel. On invite vraiment les gens à être là sur place. Faute de quoi, ça sera bien entendu retransmis sur nos plateformes Internet habituelles. Et pour nous, on se retrouve donc demain matin pour la suite de notre enseignement sur Jérémie 33, le verset 3. D'ici là, que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.